Page 346. On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 48. Alors, comme je vous avais dit, le chapitre 48, c'est un chapitre particulier. On s'approche de la fin de la première section du Tanya. Et c'est un chapitre qui est particulièrement profond. Mais, bon, vous connaissant, je pense que Bezrat Hashem, vous êtes en mesure de le comprendre parfaitement, et même de me poser des colles. En plus, si j'ai M. Benita, voilà.
Pour vous poser des colles à vous, il faut que votre bonheur.
Alors, Memchet en hébreu. Comment on dit 48 en hébreu? Memchet. Memchet en hébreu, c'est le même mot que Moach. L'intellect. Cerveau. Le cerveau. C'est-à-dire que la particularité dans ce chapitre, c'est qu'on va nous parler de l'importance de la réflexion. Comment l'homme, la force de l'être humain, c'est quoi? Qu'est-ce que l'être humain a de plus qu'un hippopotame, qu'un lion, qu'une montagne, qu'un ouragan, que tout ce que tu veux? D'accord? Que la lune, qu'est-ce qu'il a de plus, l'être humain?
C'est la parole.
C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, oui d'accord, il parle, tout le monde parle, les chiens aussi, ils parlent. C'est qu'Hachem lui a donné le sechel. Hachem lui a donné la chokhma. Et que si tu sais utiliser ta chokhma comme il faut, tu peux utiliser tout ce qu'il y a autour de toi dans le monde pour faire la volonté d'Hachem. Il y a des gens, malheureusement, qui vont utiliser leur intelligence pour utiliser tout ce qu'il y a autour d'eux pour détruire. Ça veut dire, il veut casser quelqu'un, il va utiliser tout ce qu'il y a autour de lui pour casser. Malheureusement. Ça, c'est une personne qui utilise mal l'outil qu'Hachem nous a donné. Mais quand on utilise bien l'outil qu'Hachem nous a donné, on utilise le cerveau, tu peux tout dominer. Comment ça se fait qu'un homme peut, comment ça se fait qu'un homme peut avoir un zoo dans lequel il y a des lions? Vous avez déjà vu, vous, des lions qui ont des zoos avec des hommes?
Des zoos?
Oui, un zoo. Un parc zoologique.
Le zoo.
Attends. Comment ça se fait que l'homme arrive à dominer le lion et que le lion ne domine pas l'homme? Pourtant, le lion est beaucoup plus fort que l'homme. Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'homme aujourd'hui arrive pratiquement à habiter pratiquement n'importe où dans le monde?
Mais il n'est pas plus fort.
D'accord. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a donné quelque chose de plus qu'il n'a pas donné aux autres, c'est le moach, c'est l'intellect, la chorma. Et ça, si on a compris ce outil qu'on a entre les mains, on comprend qu'il n'y a aucune situation dans la vie qui peut être plus forte que nous. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, même si quelque chose m'a énervé, quelqu'un m'a énervé, si je me laisse aller par mes sentiments, ça veut dire que la situation était plus forte que moi. Mais si je comprends que Dieu m'a doté d'un moach, d'un intellect, il n'y a rien qui me dépasse. Mon cerveau peut tout contrôler et mon cerveau peut, avec le temps, être au-dessus de tout. Avec l'aide d'Hachem, bien sûr. Et donc, justement, dans ce chapitre, le chapitre 48 qu'on a commencé la semaine dernière, on a expliqué que, parfois, pour arriver à l'humilité, il faut réfléchir pour se situer et se comparer, entre guillemets, par rapport à Dieu. Oui, disons-le, osons le mot, se comparer. C'est-à-dire quoi, se comparer? C'est-à-dire que parfois, à force de me prendre pour quelqu'un, j'oublie que j'ai des comptes à rendre à Dieu. Et je dis, bon, Dieu, il est grand, Dieu, il est très grand, moi, je suis moins grand. Mais bon, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Lui, c'est le PDG, moi, je suis... moi, je suis un employé. Un employé, il a des droits, non? Et si l'employé, il n'a pas ses droits, qu'est-ce qu'il fait?
Hein?
Qu'est-ce qu'ils font là en France?
Il fait grève.
Il fait grève. Hein? Ils font grève, on ne travaille pas.
Il y en a plein.
Pourquoi l'employé fait la grève? Parce qu'il pense qu'il peut obtenir quelque chose, non?
Ouais.
Sinon, il aurait jamais... Et BMS, ils obtiennent des choses. Parce que sinon.
Ils font pas grève.
Hein? Si on avait été comme dans des pays où il n'y a pas la grève, tu fais la grève, tu vas en prison. Voilà. Ils n'auraient pas été en grève. Pourquoi ils sont en grève? Parce qu'ils savent qu'ils vont obtenir. Donc, quelque part, avec Dieu.
Il a dit à Trump qu'il lâchera pas. Là,
puisque le. Oui.
Il a dit aucune chance.
Puisque le Baal Shem Tov, il nous apprend qu'il faut toujours tirer un enseignement de ce qu'on vit autour de nous, alors voilà, je dis comme ça. Je dis, le problème qu'il y a, c'est que l'homme ne réfléchit pas. Et comme l'homme ne réfléchit pas, alors il se dit, bon, c'est vrai que Dieu, il est très grand, mais moi, je suis grand aussi. Donc, il faut tout remettre dans le contexte. Il faut remettre chaque chose à sa proportion. Très important. Remettre chaque chose à sa proportion. Parce que finalement, comme on l'a expliqué plusieurs fois, et là, on va rentrer dans les mots, lorsqu'il y a une avéra qui se présente à moi, et que j'ai envie de la faire, j'ai vraiment envie de la faire, et que Dieu me dit, non Mendy, tu ne la feras pas, ce qui se passe à ce moment-là, il y a un bras de fer, il y a un conflit entre la volonté de Dieu la volonté de Dieu et ma volonté.
Ah oui.
Pas moi, ma volonté. Il y a un bras de fer entre la volonté de Dieu, bonsoir, et ma volonté. Qui va gagner? Qui va l'emporter? C'est la question. Alors voilà, ça veut dire que si j'ai fait la vera, ça veut dire que ma volonté a emporté. Si j'ai pas fait la vera, c'est que la volonté de Dieu a emporté. C'est un bras de fer. Mais la question est la suivante. Finalement, Dieu, je ne le vois pas. Donc quel outil j'ai pour réussir à me calmer. La Vera, elle est devant moi. Elle est tentante, elle est attirante, elle est alléchante, elle est intéressante. Maintenant, Dieu, tu comprends, on parle d'un Gan Eden ou d'un Gehinnom. Bon, je l'ai jamais vu encore. Je crois, j'ai une croyance. Comment tu fais le poids? La seule chose qui peut te permettre de faire le poids par rapport à ton Yetzara, c'est quoi? C'est ton cerveau. Parce que ton cerveau te donne la possibilité de t'imaginer. Alors, à quoi il va penser le cerveau? Le cerveau, il va essayer de se remettre en contexte par rapport à Kadosh Baruch Hu. De mettre chacun à sa proportion. Et là, on a donné l'exemple la semaine dernière, on s'est arrêté là. On a dit, si on devait comparer l'homme et Dieu, combien on aurait dit? On aurait dit Dieu c'est 1 milliard et nous c'est 1? 1 sur 1 milliard? On aurait dit c'est un ratio de 1 à 1 milliard?
Non, on ne peut pas le quantifier.
Attendez, voilà, justement. Ça veut dire que normalement, vous demandez à quelqu'un, j'ai même posé la question aux enfants, on dit alors d'après vous Dieu? Il dit, ah, Dieu il est très 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 grand.
Ouais.
Et toi? Moi je suis très 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 petit. Il y a un ratio, il y a toujours un ratio. Il y a une échelle. Et lui, il est très très grand. Ok, moi je suis très très petit, donc c'est 1 sur 1 milliard. 1 sur 100 milliards. 1 sur 1 trillion, 1 sur etc. Mais bon, ça ne change pas, il y a toujours un ratio. On a expliqué la semaine dernière que quand tu réfléchis, tu arrives à la conclusion qu'en vérité, on ne peut même pas faire un ratio. Même 1 sur 1 million, ça n'existe pas. Maintenant, dis l'Admor HaZaken, et là on va parler des chiffres. On s'est arrêté dessus, je vous ai expliqué à Laura la semaine dernière, mais là on va rentrer dans les chiffres. Donc, on va prendre en bas de la page 347, bonsoir. Il dit, on n'est pas là maintenant pour venir faire un shiur de Kabbalah, pour expliquer comment fonctionnent les contractions d'Hachem, comment Hachem s'est contracté, on n'est pas venu pour ça. Par contre, on va donner un exemple pour expliquer la différence qu'il y a entre l'infini, donc la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de l'infini des mathématiciens et l'infini des philosophes. Vous vous rappelez la différence? Qui se rappelle? D'abord, c'est quoi l'infini des mathématiciens? C'est plus simple celui-là. Exactement, voilà, il a donné la bonne définition. C'est une limite qui se repousse à chaque fois. Donc tu repousses, tu repousses, tu repousses, mais c'est toujours une limite. Voilà. Quelqu'un par exemple on a parlé la semaine des ordinateurs. Les ordinateurs, chaque quelques mois, quelques semaines, les limites sont repoussées. Et il calcule, il prend en considération des millions et des milliards et des milliards et des milliards de paramètres pour essayer de prendre, en fait, c'est quoi le secret aujourd'hui? Ils appellent ça, vous savez, le big data. Vous savez ce que le big data? Ça, ceux qui sont dans le big data, c'est l'avenir, ça. C'est quoi le big data? Big data, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on fait une petite pause informatique, mais c'est en rapport avec le Tania. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tout ce que vous faites est enregistré. Ouais. Par exemple, il est parti acheter une bouteille de coca. D'accord? Il a payé ça, attendez, il avait une carte de fidélité. Donc, dans la carte de fidélité, il y a un dossier sur vous qui sait que vous aimez le coca. Maintenant, vous avez acheté en même temps du coca, et vous avez acheté aussi du thon. Et vous avez acheté aussi des cornichons et des chips. Donc, il faut essayer de créer un modèle avec tout ça. C'est vrai que ça marche. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que les paramètres sont énormes. Là, c'est simple, c'est un franc prix, c'est facile, c'est basique, c'est rien, ça. D'accord? C'est très compliqué. Il y a des données, des données, on a beaucoup, mais après il faut analyser ces données. Ouais. Et plus tu as une capacité de prendre du recul et de comparer ces données par rapport à des données, etc. Donc là on parle de milliards, de milliards, de milliards de données. Et plus tu arrives à avoir une sorte de formule. Et par rapport à ça, tu peux prédire la prochaine fois que le client viendra au magasin, par exemple, quel produit il aimera. Et il se trompe presque pas. D'accord? Ça veut dire qu'ils savent pratiquement, avec une marge d'erreur de plus en plus réduite, que voilà, on peut savoir si c'est un homme, si c'est une femme, quel âge il a, par rapport au produit qu'il achète, par rapport à l'heure qu'il arrive, par rapport au produit qu'il achète, par rapport, etc. On peut le cibler avec une précision presque parfaite.
Et souvent, c'est
pour d'accord.
Et pour fabriquer.
Et vous savez, j'ai même parlé avec un expert dans ça, dans ce domaine, qui m'a dit qu'avec ça, ils se retiennent. Ils se retiennent parce que des fois, hein, c'est tellement précis que si la personne, tu lui présentes un produit qui est trop pertinent, Il va sentir que tu avais une intrusion dans sa vie. Et donc, du coup, tu l'as perdu. Donc, ils sont toujours en train de jouer avec ça. D'un côté, te proposer le bon produit. Et d'un autre côté.
Donc, comme si qu'il t'en
vraiment. Voilà. Comme si que le produit est tombé par hasard, mais.
C'est toi qui l'as trouvé.
Voilà. Comme si que tu l'as trouvé.
C'est toi qui l'as trouvé.
Et plus on avance dans le monde, plus ça va être comme ça.
Ça, c'est fort, ça.
Ça vous remarquez, ça. Quand vous remarquez les mails par une convention de publicité, les bonnes sociétés, ils sont capables de vous envoyer le bon mail, le bon jour. Le jour où vous avez besoin de quelque chose, et là, tu reçois un mail, pile une société qui a pensé à toi. Celle-là, elle t'a bien ciblé.
Comme par hasard.
Si par contre, il y en a une qui me propose, je sais pas moi, qui va me proposer des produits pour troisième âge, je sais pas quoi, bon, je dis, désolé, tu t'es planté, spam. Ok? Bon, après, je vous parle de tout ça maintenant. Je vous parle de tout ça pour dire, hein, qu'en vérité, déjà, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on comprend que les paramètres sont infinis. Et que plus tu avances, plus tu repousses les limites, et plus les paramètres, tu peux développer encore des paramètres, et des paramètres, et des paramètres, et des paramètres, et c'est les super calculateurs qui sont en train de calculer tout ça. Mais comme a dit Michael, ça, c'est pas infini. Ça veut dire, c'est vrai, si tu avais parlé de ça à un informaticien dans les années 60, tu l'aurais, tu sais, un jour, il y aurait les ordinateurs qui seront capables de calculer en temps réel des milliards de milliards de milliards de données en une fraction de seconde. Tu aurais dit, c'est impossible. Pour lui, c'est l'infini, ça. Pour moi, c'est pas l'infini, ça. Pour moi, c'est quelque chose de réel. Alors, c'est quoi l'infini pour moi? L'infini, c'est d'avoir encore plus de paramètres, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Oui, mais en vérité, c'est pas de l'infini, ça. On n'a fait que repousser les limites de l'infini. Mais l'infini, c'est quoi? En vérité,
alors, en fait, il n'existe pas.
Attendez. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infini des mathématiciens.
Sinon, il y a un autre infini.
Vas-y.
L'infini, c'est un cercle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.
Oui, mais
même s'il est construit, c'est quand même.
Alors, c'est pas infini. Il y a un début. C'est vrai que j'ai
pas de début, il n'y a pas de fin.
Deux secondes. J'ai pas, par exemple, prenons le cercle là ici. Ouais, j'ai pas défini le début et de fin, mais concrètement, à n'importe quel endroit où je ferai un début, je trouverai une fin.
Mais c'est euclidien, ça.
Donc je comprends. Donc ça marche pas.
Euclide. 8. Donc, infini.
Oui, mais c'est pas infini. C'est pas infini.
Bah oui, ça commence. Hein.
Il y a non. Pourquoi c'est en quoi c'est infini?
Bah, parce que le que Euclide a décrit.
Non, oui, parce que tu peux tourner autant de fois que tu veux. D'accord. Alors combien de fois tu peux tourner?
Mais on sait même pas.
Mais attendez, dites-moi combien de fois.
Impossible de délimiter. Alors, la quantité, c'est impossible.
Imaginez qu'un homme vivait 10 milliards d'années. Combien de fois il aurait tourné, Euclide? Il aurait tourné, on peut compter, c'est quantifiable. Tout est quantifiable. Après, il faut un intellect qui gère, il faut un outil informatique qui gère, mais tout est gérable. Donc c'est pas ça le vrai infini. C'est pas ça le vrai infini.
D'accord.
On est d'accord? Alors c'est quoi le vrai infini? Alors il dit comme ça. Kanoda, là vous allez voir comment l'Admor HaZaken va représenter ça. Je suis en bas de la page 347. Alors, Kanoda Pirouche, Milat Erech, Bemisparim. Comme on connaît le sens du mot valeur en termes de nombre. Chez Echad Bemispar, le chiffre 1, Yeshlo Erech a une certaine valeur. Les Gabé Mispar élève à la fim par rapport au nombre d'un million. Chez Ou Chelek Echad, mini élève à la fim, car il représente la millionième partie de celui-ci. En français, il y a un proverbe qui dit « Les petits ruisseaux font de grandes rivières, de grandes fleuves. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de te dire que toi, tu crois que j'ai économisé quelques centimes par-ci, quelques euros par-ci, quelques euros par-là, tu crois que c'est rien du tout, tu laisses tomber. Mais en vérité, tu économises. Après, on rentre dans la radinerie, c'est un autre problème, d'accord? Mais bon, je parle du concept. Le concept, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tout d'un coup, tu gagnes un million? Ça, c'est au loto, ça. Alors, je vous dirais, l'argent qui vient vite, part vite. D'accord? Oui. Seulement, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit comment ça fonctionne en général? C'est petit à petit. C'est-à-dire que pour arriver à un million, le premier euro que je reçu pour arriver à un million était aussi important que le dernier. On est d'accord? Parce que si je n'avais pas eu le premier euro, j'aurais pas eu le suivant. Donc il est important. Et si j'ai un million moins un euro, ça fait combien? J'ai plus un million.
Il manque un euro.
D'accord. Alors c'est vrai qu'un euro par rapport à un million, c'est rien. C'est battel b un million. Je veux bien que c'est battel b un million, mais concrètement, c'est quelque chose. C'est pas rien.
C'est pas l'infini moins un, c'est pas l'infini, mais c'est pareil.
Oui, mais encore une fois, le problème qu'on a avec l'infini des mathématiciens, c'est que c'est pas un vrai infini.
D'accord.
C'est ce que moi j'appelle un infini. Ouais. Mais en vérité, c'est pas un infini. La preuve, c'est que j'ai un ordinateur devant moi qui me dit j'arrive à te calculer ce chiffre, j'arrive à te dépasser encore.
Ah, mais ce que je veux dire, même si tu parles de l'infini dont on va parler là maintenant,
oui.
L'infini sans limite, sans début, sans.
On n'a pas parlé encore. Attends, laisse-le parler.
Mais donc, tu peux pas dire que si c'est un infini qui n'est pas défini, sur lequel tu enlèves une partie, ça reste plus infini.
On va voir. Ah, oui. Une seconde. Là, pour l'instant, on parle d'un infini. D'un infini quantitatif. Enfin, on va l'appeler comme ça. Un infini quantitatif. C'est 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 1 non-stop. Ok? Je veux bien, c'est un infini quantitatif, mais c'est pas un vrai infini. La preuve, c'est quoi? C'est que si je devais comparer 1 par rapport à 1 milliard, par rapport à 100 milliards, par rapport à 2 milliards, c'est vrai que le 1 est infime, il est peut-être infime. Mais il représente, mais il représente quelque chose. Il représente quelque chose. Eh oui? Alors attendez. Donc si on disait que nous, on était comme ça par rapport à HM, que HM, c'est 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 100 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, et moi, je suis 1, c'est-à-dire quelque part, je suis quelque chose. Je peux être même un grain de sable. Vous savez, même si je vais à la mer, d'accord? Et que je veux prendre un grain de sable. C'est rien, un grain de sable.
Une goutte dans l'océan. D'accord?
C'est rien. Ou une goutte dans l'océan. Ouais. Voilà, comme le proverbe. Une goutte dans l'océan. C'est rien, une goutte dans l'océan. Oui, c'est rien, mais concrètement, l'océan, c'est quoi l'océan? C'est une goutte, plus une goutte, plus une goutte, plus une goutte, plus une goutte. Et tu as enlevé une goutte, tu as enlevé quelque chose de la masse. C'est tout.
D'accord.
On est d'accord? Ok. Alors, maintenant, il faut qu'on voit où il veut nous amener. Aval, les gabés d'Avar, Chehou, Prinat, Blikvoul ou Miss Parklal. Maintenant, si on devait comparer un par rapport à quelque chose qui est absolument sans limite et sans nombre. Ça veut dire, imaginez-vous, on n'arrive même pas à s'imaginer ça puisque notre cerveau n'est pas conçu pour ça. Yves, il essaie de calculer là, mais il ne peut pas. Hein? Imaginez qu'on arrivait à en te dire quelque chose que même donner un nom, je ne peux pas lui donner. C'est-à-dire qu'il est infini, que le seul mot que je peux dire sur lui, c'est qu'il est infini. Mais même donner un nombre, je ne peux pas. D'accord? Je peux pas donner une limite, je peux pas donner un nombre. Donc si tu compares 1 par rapport à l'infini, le vrai infini, ou 100 000 milliards par rapport à au vrai infini, 1 par rapport au vrai infini et 100 000 milliards par rapport à l'infini, ils valent exactement la même chose.
Ah oui.
Pourquoi? Puisque les deux sont finis. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on est en train de te dire, tu vois le dernier des bons à rien, et toi, tu dis, ah moi je suis un type bien, moi. Très bien. Toi tu vois 1 milliard, lui vaut 1. Pas de problème. Mais comprends bien que 1 et 1 milliard par rapport au vrai infini, ils valent exactement la même chose.
Ah oui.
Donc on est pareil, en fait.
Par rapport à l'infini, mais pas par rapport au milliard.
Ah oui. Donc c'est quoi l'infini ici? Qui est l'infini? L'infini, c'est HM. On te dit, tu peux même être le plus grand des tzadikim. Tu peux être même au Gan Eden, le plus grand, du plus grand, du plus grand, du plus grand, du plus grand. Ça reste toujours du fini, tout ça. C'est fini, c'est quelque chose qui a une définition. Qui est défini, ça veut dire, voilà, il y a quelque chose, et, enfin, peut-être qu'il est défini spirituellement, ou j'en sais rien, mais il est défini. Or, dès qu'il est défini, comparer quelque chose de fini à d'infini, c'est impossible. Tu peux pas comparer. Il n'y a pas de ratio, tu peux pas les comparer. Et là, comme il dit ici, Shafilu, Elef, Alfe, Alafi, Veribor, Evavot, car même 1 000 milliers, 2 000 milliers et 10 000 myriades. Einam, Afilu, Keer, Mispar, Echad, comparés à l'infini, ils sont même pas comme la valeur de 1, les gabés élèves à la fée, à la fine, beribor et vavot. Ça veut dire comme ça. Tu fais le ratio de 1 par rapport à 100 milliards. Mm-hmm. Et tu fais le rapport entre 100 milliards par rapport au vrai infini. On te dit, ça vaut rien. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que 100 milliards devant l'infini et 1 devant l'infini, ils valent la même chose. Puisque de toutes les façons, ils sont finis. Mm. Que ça change.
Sûr.
Un peu plus fini, un peu moins fini. Que ça change. De toutes les façons, il est fini. Ok? Et là, que la mamash rachiv. Ils sont considérés comme rien du tout. Ça, c'est un exemple que la Mourazakam nous expliquait. Pour nous montrer comment ça fonctionne par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est pour essayer de nous imaginer. Et là, on va rentrer dans une définition que vous avez entendu parler plusieurs fois dans le Tanya, mais qu'on n'a jamais développée. Et plusieurs fois, M. Benité posait la question, je vous disais plus tard. Ben, le plus tard, c'est aujourd'hui. D'accord? Non, pas parler d'un sauf. Je vais parler de Sovev et Memalé. Sovev, Memalé. C'est des définitions qu'on a touchées plusieurs fois, mais sans vraiment s'arrêter dessus. Aujourd'hui, on va s'arrêter dessus. Alors d'abord, je traduis le mot, après on va expliquer. Ça, c'est les définitions que vous retrouvez dans tous les livres de Kabbalah. Tous les livres, le Zohar, partout. Sovev, Memalé, Sovev, Memalé.
C'est bon?
J'explique. D'abord, je traduis le mot. Sovev, ça veut dire ce qui entoure. Memalé, c'est ce qui remplit. D'accord? Alors, non, Memalé, ce qui est empli. Ce qui est empli, pas Malé, Memalé.
Donc Sovev, c'est le...
Ça veut dire, prenons par exemple cette bouteille de coca que j'ai devant moi. Sovev, c'est ce qu'il y a autour de la bouteille.
L'emballage, quoi.
Non, je parle de l'emballage. Ce qu'il y a autour de la bouteille.
Le plastique.
Memalé, non, j'ai pas dit ça.
Ah, oui, non.
C'est ce qu'il y a autour de la bouteille. J'arrive, 2 secondes. Memalé, c'est ce qui rentre dans la bouteille.
Le contenant.
Alors, pourquoi c'est très important de comprendre ça? Ce qu'on va expliquer, c'est qu'en fait, lorsque Dieu crée le monde, il y a des étapes. Au début, c'est une énergie très puissante qui est infinie. Infinie. Et après, progressivement, HM descend. Maintenant, le chemin à faire est très grand. C'est même pas un chemin de 1 milliard à 1. C'est un chemin de l'infini au fini. C'est impossible, normalement. On peut pas transformer l'infini en fini. De la même façon que je ne peux pas transformer le fini en infini. Vous êtes d'accord avec moi ?
On ne sait pas ça.
Bah, c'est impossible. Tu peux transformer ça en infini ?
Oui, non, non, d'accord, mais l'infini en fini...
Donc, une seconde. Donc, si je ne peux pas transformer l'infini en fini, comment tu veux que je traduise le fini en infini ? Comment tu veux que je transforme l'infini en fini ? Pas possible. C'est deux notions différentes. J'y arrive. Lorsqu'Hachem descend, il y a plusieurs étapes. Ça va vous avoir l'air un peu flou au début, c'est normal. Mais on va expliquer. Pardon. On a une première étape qui est sauvée, dans laquelle Dieu enveloppe la chose. Et deuxième étape dans laquelle même aller, ça entend. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez un enfant de 5 ans. Et bon, on peut être un adulte qui est à l'âge de 5 ans spirituellement. Bon, on va dire 5 ans. Un enfant de 5 ans qui vient à un cours de Torah. Bon. Il sent une énergie dans le cours. Il sent qu'il y a une énergie. Il y a un rave, il pose des questions, etc. Il sent l'énergie. Mais il n'arrive pas à comprendre ce qui a été dit. Alors après le cours, on pose la question à l'enfant de 5 ans, on dit alors on t'a vu, t'as regardé le cours, qu'est-ce que t'as compris ? Qu'est-ce qu'il va vous répondre ? J'ai rien compris. Tu vois, pourquoi t'es resté ? Qu'est-ce que t'as senti ? Comment il était le cours ?
Il a senti quelque chose.
Il me dit, ah, c'était super, j'ai senti, c'était bien. Et qu'est-ce que t'as vu ? Alors quand j'ai un enfant de 5 ans, c'est gentil, mais ça peut être aussi, quelqu'un qui est venu à un cours, qui est débutant. Des fois, ça m'arrive, des fois. Des gens, je vous promets, ça arrive plusieurs fois. Des gens, des fois, qui viennent au cours de Tania, je vois qu'ils ont rien compris. Je vois qu'ils sont pas au niveau de comprendre. Il faut venir encore plusieurs fois pour comprendre. Il peut pas comprendre ce qu'on raconte. Je vois qu'il est pas en état de comprendre. Tu sais, avec les questions qu'il pose, tu comprends tout de suite qu'il comprend pas. Il est pas là. Eh bien. Alors tu lui dis, alors comment c'était le cours? Il dit super. C'est quoi super? C'est super, t'as rien compris. Tu dis super. T'as rien compris. Il dit, mon âme a compris. Ouais, bon, mon âme, baba, Sainte-Anne, c'est pas ici. C'est vraiment mon âme. Non. Parce qu'en fait, ce qui vient de se passer, c'est un truc sérieux ce que je vous dis, ce qui vient de se passer, c'est qu'il a senti qu'il était enveloppé de quelque chose. Ça nous arrive dans la vie, des situations comme ça, des choses qu'on n'arrive même pas à définir. Je lui dis, mais définis-moi, explique-moi. Ta femme me dit, raconte-moi comment c'était. T'es incapable de le répéter. Je dis, quoi, t'as passé une heure et demie, t'as fait quoi? C'était super. T'as fait quoi? Alors pourquoi tu dis c'est super, si t'es pas capable de répéter? Comment ça se fait? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu n'étais pas encore au niveau de faire rentrer l'idée en toi, de t'emplir de l'idée. T'étais pas en état. Mais par contre, t'étais assez éveillé pour te faire envelopper par l'idée. C'est plus facile de se faire envelopper d'une idée que de permettre à l'idée de rentrer en nous. D'accord? Ça, c'est la première étape de sauvève. De la même façon. Lorsque Dieu fait descendre son énergie, première étape, c'est que Dieu nous enveloppe de son énergie, sans qu'on est capable de la faire entrer en nous. Deuxième étape, c'est lorsque l'énergie descend encore plus, c'est lorsque Hachem, non seulement qu'il nous enveloppe, mais carrément, il va entrer en nous. Il va s'adapter à nous. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, si je reprenais l'exemple tout à l'heure, c'est quand tu vas aller à un cours de Torah, et tu vas être capable de prendre l'idée, de la rentrer dans ta tête, et de la rentrer dans ta tête à toi, avec tes connaissances, et tu es capable de la reproduire. C'est-à-dire que l'idée est entrée en toi. C'est ce qu'on appelle le monde de Mémalé. Ok, Mémalé, sauvève. Donc ça c'est des exemples qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Mémalé, sauvève. Ok. Maintenant, on va essayer d'expliquer par rapport à Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais vous dire, si je vous pose une question, qu'est-ce que vous préférez comme style de cours? Est-ce que vous préférez des styles de cours dans lesquels vous comprenez tout ou des cours dans lesquels vous comprenez rien?
On comprend tout.
On comprend rien. C'est mieux de faire ce qu'on comprend. Rien.
Moi, je vais vous dire, un cours dans lequel je comprends tout, ça m'ennuie.
Ben voilà.
Ah oui.
Chercher après.
Parce que
c'est un cours dans un cours, si
je comprends. Je comprends, mais si je comprends tout du premier coup, c'est-à-dire qu'en vérité, j'ai rien appris. Je
décroche aussi.
Oui, exactement. Je décroche. Moi, je connais déjà.
Non, mais je comprends rien.
Alors voilà. Mais d'un autre côté, il lui dit, quand tu comprends rien, tu décroches.
Ah oui, il a raison.
Alors comment trouver le juste milieu? C'est très compliqué.
Tu peux te dire qu'il y a sûrement quelque chose à comprendre que je ne comprends pas.
Oui, mais bon, ça veut dire, vous comprenez le problème? Retenez ces mots. Voilà. Là, ce soir, quand vous rentrez chez vous, votre femme, Hazak David.
Il a
rien à comprendre. Anniversaire.
C'est lui ou moi, ou c'est moi?
Tu sais arranger. Tu vas lui poser la question. Ce soir, on va poser la question. On va dire, alors qu'est-ce que tu as appris? Deux mots, tu veux le répéter. Allez, répétez avec moi. Sauvev. Mémalé. Pessah, Matza, Mara. On répète.
Donc, même quand on ne comprend pas, il reste toujours quelque chose.
Naturellement.
Sauvev, Mémalé. Il y a ce qui enveloppe. Il y a ce qui enveloppe. Vous savez, la prochaine fois que vous va vous dire un truc et tu comprends rien. Tu sens qu'il y a un truc qu'elle veut grave et tu comprends pas. Tu lui dis, écoute, en mode sauvev, je t'ai compris, tu vois. En sauvev, je t'ai compris, là, que j'ai une énergie qui m'enveloppe. J'ai bien compris que tu veux quelque chose. Ça, j'ai très bien compris. mais j'ai pas réussi à faire rentrer ça en moi. J'ai pas compris. Ça, dans ma tête, c'est pas rentré. Et dans la vie, il y a plein de situations comme ça. Mémalé, c'est ce qui emplit. Sovev, c'est ce qui entoure. Okay. Maintenant, on va revenir à Kadosh Baruch Hu. Dieu est infini. Lorsque Dieu veut descendre vers les hommes, ça prend plusieurs étapes. C'est pas comment tu passes de l'infini au fini. Il faut plusieurs étapes. D'abord, il y a une première étape dans laquelle il te dépasse complètement. Tu ne peux même pas le définir. Après, il y a une autre étape dans laquelle Dieu, il va commencer à s'adapter à toi. Mais il t'enveloppe, il ne rentre pas encore dans toi. Après, il va rentrer en toi. On va expliquer ça avec des mots concrets et réels. On y va. Vekach HaMamash, étude du 13 Iyar. C'est bon, page 348.
348. 48, ouais.
Alors, ça
marche. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas la Dan, genre. New Dan,
genre. Ah, j'ai dit dans le message, j'aurais dû écrire salle climatisée.
Ah ouais. Clim a tous les étages.
Bon,
et où t'en mis,
bon ça parle plus maintenant, c'est fini.
Ça amène le pèlerin.
Il arrive.
Des cars à mamash, oui. Hein? Vekach HaMamash, au milieu de la page 348. Amen. Vekach, vous avez dans les mots? Vekach HaMamash, il en est de même. Donc vous comprenez le problème. C'est quand on te dit que 1 par rapport à l'infini et 1 milliard par rapport à l'infini, ils valent exactement la même chose. Même mathématiquement, parce que on compare ce qui est incomparable. Ok. Alors de la même façon. Vekach HaMamash, iprinat ha'aram u'etetzo. Il en est de même. Lorsqu'on a une énergie d'Akadosh Baruch Hu, qui est déjà infime à la base. Amit la Beshet, Beolamot, Elonim et Tartonim, Lashpia, Bem, Lachayotam. Ici, nous avons de l'énergie de Dieu. Si ce verre existe, c'est qu'il y a une énergie dedans, de Dieu. Maintenant, cette énergie est finie ou infinie?
Finie.
Elle est finie. On est d'accord? Parce que si elle est infinie, le verre n'existerait pas. Parce que, étant donné que ce verre est fini, si ce verre est fini, c'est-à-dire qu'il a une masse, il a un poids, il a une forme, il est fini ce verre, il a une couleur. Donc si ce verre a une forme qui est finie, ça veut dire qu'il a aussi une énergie qui est finie. Donc comment on arrive? Si on doit comparer maintenant cette énergie qui est finie par rapport à Dieu qui est infini. Incomparable. C'est comme si tu voulais comparer 1 par rapport à l'infini. Là j'ai 1 et là j'ai l'infini HM. Incomparable. Je continue. Il va reprendre le même exemple qu'on a cité, mais là il va te l'amener par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. Donc, si on devait comparer l'énergie qui est contenue dans l'olive qui est devant moi, infime cette énergie. Alors, c'est une énergie, il y a de l'énergie dedans. Après, je vais la manger, je vais prendre l'énergie, il y a quelque chose. Mais cette énergie est infime par rapport à l'infini de Dieu. Si tu comparais ça par rapport à Oraganouz, la lumière qui est enfuie et voilée, chez Uprinat Ensof, laquelle relève de l'infini. Cette lumière qui enveloppe les mondes, on l'appelle la lumière Sovev. Sovev, rappelez-vous, on l'a dit, ça veut dire quoi? Ce qui enveloppe. Attention, je vais dire. Ceux qui étudient la Kabbalah, dans les centres de Kabbalah comme ça, ils lisent le mot Sovev, ils se plantent complètement. Ils disent, ah, on a compris. Il y a une lumière qui entoure, il y a une lumière qui rentre. Ah, parce que tu crois qu'il y en a une qui entoure et une autre qui rentre. Celle qui entoure, elle reste à la porte, c'est ça, elle rentre pas?
Non,
il dit pas du tout. Regardez ce qu'il explique. Il dit sur la page suivante. Ve'ein apirush sovev ou makif le mil malam prilat makam chazé shalom. Qu'est-ce que tu crois? Quand on te dit qu'il y a une lumière d'Hachem, une énergie d'Hachem qui enveloppe, qui tourne, d'accord? Tu crois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que ça veut dire qu'elle est en train de tourner comme un satellite en orbite, qui tourne? Mais non. Par rapport à Hachem, l'espace n'existe pas. Donc même le fait de dire tourner. Tourner, ça laisse entendre qu'il y a un espace, qu'il y a du temps, qu'il y a de l'espace. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Après, on dit tourner. C'est un abus de langage. Pourquoi on dit tourner? Quand il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire rentrer en toi, tu dis, ça m'enveloppe. Donc, de la même façon, c'est comme ça qu'on appelle cette lumière. On appelle cette lumière une lumière qui m'enveloppe. Pas parce qu'elle tourne autour de moi physiquement, elle n'est pas en train de faire la cafote autour de moi. C'est pas ça. C'est... Parce que si je dis qu'elle tourne, ça veut dire qu'elle est déjà finie. Elle est là, comme c'est l'exemple qu'on a dit tout à l'heure. Un cercle. Même si je dis qu'il peut tourner sans cesse. Mais du fait même que je peux définir un point de départ, même théorique, d'accord, même virtuel, je peux définir un point de départ et donc un point d'arrivée. Donc, du coup, c'est quelque chose de fini.
Donc, le mot sauveur n'est pas approprié.
Exactement. Le mot sauveur est un abus de langage. C'est un terme que l'homme a donné pour essayer d'expliquer ce qui le dépasse. Et comme moi, ce qui me dépasse, je dis, ça n'arrive pas à rentrer en moi. Donc du coup, le Zohar, comment il appelle, il dit, il y a une énergie qui m'enveloppe. mais ça ne veut pas dire qu'elle t'enveloppe. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à rentrer en moi.
Est-ce que l'inertie d'énergie, ça peut être comparable
est-ce que
à une onde
Michel, tu peux non, l'énergie, quand je dis l'énergie, c'est une puissance d'Hachem. Non, non, je ne parle pas d'onde ici. Et là, Retsunolomar. Donc je suis 349. Sevev ou Makif Milmala, Leinyan Prinat Gilou Yashpa. Lorsqu'on dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a une lumière d'un Kadosh Baruch Hu qui nous enveloppe, ça veut dire qu'elle nous enveloppe. Ça veut dire qu'elle encercle d'en haut ce qui se passe, d'accord? Et donc, elle ne se dévoile pas. Et il explique. Yashpa, Shemi Prinat Gilou, Beolamot, Nikret Besham Al-Basha. Lorsque Akadosh Baruch Hu va s'habiller dans quelque chose, lorsque quelque chose va être dévoilé, Nikra Beshem Al-Basha, ça s'appelle qu'il s'est habillé en toi. Shemitla Beshet Beolamot, Kihem Al-Bishi ou Masigi Ma'ashpa Shemekabli. Je termine le paragraphe, après j'explique. Ma'shen, Kihem Ashpa Shemim Prinat Gilou Abester Ve'elem, alors que l'influence qui n'est pas dans un état de révélation, mais qui est dissimulée, voilée, Ve'en Alamot Masigi Mota, et que les mondes ne peuvent pas la capter, et Nanikra Admitla Beshet Elam Kefet de Sovevet. Dans ce cas-là, on ne dit pas qu'elle s'habille en moi, on dit qu'elle m'entoure et qu'elle m'enveloppe. Je vous donne un exemple très simple. Quelle est la différence entre l'air qui m'entoure ici et mon habit? Là, sur moi, j'ai un habit, j'ai un costume, j'ai une chemise, j'ai un pantalon. Quelle est la différence entre l'air qui m'enveloppe ici, l'air, il y a de l'air ici, l'air, on est d'accord, il y a de l'air que je respire, et mon costume.
L'air est infini,
les deux m'enveloppent.
Les deux m'enveloppent. L'air, ouais. Tout m'enveloppe en vérité. L'espace m'enveloppe. Tout m'enveloppe. La lune m'enveloppe. Tout m'enveloppe. Ah, pourquoi je dis que le costume il m'enveloppe et je dis pas finalement que la couche d'ozone m'enveloppe, que le soleil m'enveloppe, tout m'enveloppe. Oui, mais tout m'enveloppe.
Oui.
Pourquoi je dis que le vêtement m'enveloppe? La réponse est très simple. Parce que le vêtement, il est fait à ma taille. Il est fait à ma taille et pas à ta taille. Bon, enfin, je ne veux pas faire deux poids ici, mais je peux faire deux poids, deux mesures. Hein? Non, je ne veux pas de vous. Non, j'ai pointé l'espace. Alors, un habit est fait à ma taille. Il est fait à ma taille et à mon goût. Mmh. D'accord. C'est-à-dire, tu vas dire à quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui n'est pas mouillé, tu vas dire, je vais te donner un chapeau avec une chemise blanche, avec un costume. Il va dire, désolé, c'est pas ma cam. Je m'habille pas comme ça. Donc ce vêtement, c'est un vêtement que j'ai acheté, d'accord, et donc d'abord qui est à ma taille, qui correspond à ma taille, qui correspond à mes goûts, qui est fait pour moi. Alors que l'air qui est autour de moi, c'est pas un air qui est fait pour moi. L'environnement qui est autour de moi, le soleil, tout ce qui m'entoure, les astres, c'est pas fait pour moi. Ça m'enveloppe, mais c'est pas fait pour moi. Ils se sont pas adaptés à moi. C'est moi qui essaye de les capter. C'est moi qui essaye de les capter et de profiter. Mais ils ne sont pas adaptés à moi. Il y a un exemple, un très, très joli exemple dans notre chassidut. On dit comme ça. On dit le soleil. Le soleil, on a eu du soleil à Baruch Hashem. On était bien content. Baruch Hashem. Regardez le soleil. Le soleil, il peut éclairer une plage, il peut éclairer une synagogue, et il peut éclairer une poubelle. Maintenant, est-ce que le soleil, quand il éclaire, il se pose la question, attends. Là, j'éclaire une poubelle, là, j'éclaire une plage, là, j'éclaire... Non.
L'ensemble.
Le soleil, il ne se pose pas ces questions. Il éclaire, c'est tout. Le soleil, il éclaire. C'est-à-dire que le soleil, il enveloppe les choses, mais il ne s'adapte pas à la personne. Il ne s'adapte pas. Tout le monde... Non, mais ça veut dire qu'il brille pour tout le monde, il ne se pose pas de questions. Il ne dit pas, je vais briller pour ceux qui sont comme ci, mais pas pour ceux qui sont comme ça. Et le soleil éclaire de la même façon, ça c'est une idée qu'a amené le Chassidut, que le soleil éclaire une poubelle de la même façon qu'un diamant.
Ah ben ça veut dire que nous sommes tous enveloppés alors.
Attends, voilà, exactement. Donc là, le soleil, c'est un exemple terminé dans Chassidut. Pour expliquer, or, la lumière. La lumière est quelque chose qui ne s'adapte pas à toi. Là, par exemple, ici, on a un néon. Le néon, enfin, un LED, d'accord, il éclaire. Maintenant, il ne se pose pas la question sur qui j'éclaire pas, est-ce que j'éclaire des gens qui étudient la Torah, est-ce que j'éclaire des gens qui sont tzadikim, est-ce que j'éclaire des réchaïm, est-ce que j'éclaire s'il y a quelqu'un, est-ce que j'éclaire s'il y a personne. Il ne se pose pas ces questions. C'est une lumière qui éclaire, c'est tout. Celui qui en profite, qui en profite. Tu veux mettre un rideau, tu te bloques de lui. Tu veux ouvrir les rideaux, tu profites. Adkan, ça s'arrête là. Par contre, prenons l'exemple maintenant d'un maître qui est en train d'enseigner à des élèves. Là, c'est autre chose. Là, c'est pas une lumière d'un soleil qui dit, moi je parle, celui qui veut m'écouter, il a qu'à m'écouter. Ah non, là c'est complètement autre chose. Là, quand tu as un maître qui enseigne à un élève ou un père qui parle à son fils, il est en train d'essayer de s'adapter. Ça veut dire, si tu as, imaginez cette scène, un père qui rassemble ses enfants et qui se met à leur parler en chinois. Il dit, écoutez, moi je parle, celui qui veut écouter, il a qu'à se casser la tête, il a qu'à apprendre le chinois. Qu'est-ce que vous pensez d'un père comme ça? On dit, est-ce que c'est un éducateur ou c'est pas un éducateur? Pourquoi tu n'appelles pas ça un éducateur? Ils ont qu'à apprendre le chinois.
Ils s'adaptent pas à ses enfants.
Ils ont qu'à apprendre le chinois. C'est comme le soleil. Le soleil dit, écoute, qu'est-ce que tu veux me faire? Tu restes en France, t'auras de la pluie. Tu veux du soleil, va en Israël, qu'est-ce que tu veux? Seulement, on te dit, c'est ça la différence entre le soleil et un maître qui s'adapte à toi. C'est que le soleil, il envoie, sans se poser de questions à qui il envoie. Il t'enveloppe, il t'envoie. Tu dis, moi, je t'envoie. Tu prends pas, ça m'intéresse pas. Je pose pas de questions. Alors que, tu prends un maître qui va t'expliquer quelque chose. Le maître, lui, il va s'adapter à toi. Il va dire, je te donne une énergie pour toi, qui est dédiée à toi, qui est à ton niveau. C'est comme ça que ça devrait être. C'est ce qu'on appelle la différence entre or et shefa. Entre la lumière, d'accord? Entre la lumière et l'énergie. Ok. Maintenant, où je vais arriver avec tout ça? Ce que je vais expliquer, c'est que de la même façon, lorsque Hachem envoie une énergie, il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau dans lequel Hachem dit, moi j'envoie de l'énergie. Je pose pas de question, est-ce que ça correspond aux hommes, est-ce que ça correspond pas aux hommes, est-ce qu'ils sont méritants, est-ce que c'est pas méritant, est-ce qu'ils vont bien s'en occuper, est-ce qu'on va bien s'en occuper. Il y a un premier niveau dans lequel Hachem dit, moi j'envoie. Après celui qui capte, il capte, celui qui capte pas, il capte pas. Moi j'envoie une onde, t'as dit une onde, l'exemple. Ah j'envoie. Il faut savoir qu'il y a des façons, il y a des pays pour lesquels Hachem se comporte comme ça. Pas pour nous, le pays d'Israël. On dit que sur la terre d'Israël, Dieu il a constamment les yeux rivés sur elle. Ça veut dire quoi que Dieu il a constamment les yeux rivés sur elle? Dieu il n'a pas les yeux rivés sur la France? Il n'a pas les yeux rivés sur l'Australie? Bien sûr qu'il a les yeux rivés, Dieu il est partout. Selon voilà, il y a des pays dans lesquels Dieu il dit, j'envoie l'énergie et je laisse gérer. Il est là, bien sûr qu'il est là. Mais dans le sens, il dit, j'envoie l'énergie. Et je me pose pas la question, est-ce qu'ils ont bien reçu, est-ce qu'ils ont pas bien reçu, est-ce qu'ils étaient vraiment méritants, pas vraiment méritants. Toutes les quelques décennies, je fais un bilan pour voir est-ce qu'ils me sont méritants ou pas. C'est comme ça chez les goyim, faut savoir ça. Chez les goyim, ils sont pas forcément jugés chaque année. Ils sont jugés tous les quelques années comme ça. Des fois, tous les 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je fais un bilan général, il dit, bon, alors, comment ça va à ce pays? Bon, allez, hop, à ce pays, ça y est, hein, lundi, ils sont fait descendre parce qu'ils ont pas bien utilisé. Alors que nous, les bénis Israël, la terre d'Israël et les bénis Israël, nous-mêmes spécifiquement, où qu'on se trouve, on est jugés chaque jour. Chaque année, on a un grand jugement, et chaque jour, on est jugé trois fois par jour. Chaque jour. Shacharit, Mitharvit. Pour ça, tu vas faire Mitra, pourquoi tu fais vite? Parce que je suis jugé encore une fois. Combien il va me juger, Hachem? Comment tu me juges? Parce que Hachem, il te dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, t'es pas quelqu'un que je dis, je donne, et je fais pas attention. Toi, je vais te donner à toi spécifiquement.
Un jugement à charge ou un jugement de rattrapage?
Non, c'est un jugement. Ça veut dire qu'il faut mériter. Je vais vous raconter un exemple qui est ramené dans le livre de Chassidut pour expliquer ça. C'est un exemple qui peut peut-être vous choquer, mais c'est un exemple qui est très juste. On raconte l'histoire d'un roi qui a organisé un festin pour ses enfants, les princes et ses ministres. Mais pas n'importe quel ministre. Les ministres desquels il est particulièrement fier parce qu'ils sont fidèles. Donc imaginez le roi. C'est une grande table comme ça, combien de personnes autour de la table, on va dire? Combien de personnes autour de la table? Bah, on va dire, il y a 20-30 personnes sélectes, triées sur le volet. Il y a les princes, il y a quelques ministres triés sur le volet. Alors, le roi, comme il fait une Seouda pour eux, il s'investit dans cette Seouda. Qu'est-ce qu'il va leur mettre dans ce repas? Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il va leur mettre dans ce repas?
Caviar.
Des entrées. On veut-tu en voilà.
La viande.
Agneau. Du caviar.
À la broche.
Du caviar cachère.
Cachère, tout cachère, évidemment. Cachère, etc. Maintenant, comme c'est le roi. Attendez, je continue dans l'exemple. Comme c'est le roi. Alors, lorsque le roi il organise comment? Il organise large, très large. Enfin, en grand. Donc, pour 20 personnes, il prépare pour 500 personnes en réalité. Parce qu'il faut que chacun puisse goûter de chaque viande. Donc, il va te préparer 40 viandes. Maintenant, concrètement, chacun va goûter 4 viandes. C'est pas grave. Moi, je veux que si tout le monde veut goûter cette viande, ils peuvent goûter. Et s'ils veulent remplir leur assiette que de cette viande, ils peuvent. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est impossible. C'est pas grave. C'est le roi. Le roi dit, il n'y a pas.
Il y a tout
aussi. Donc, le roi, il a cuisiné pour 500 personnes.
Il y a même l'addition.
D'accord? Alors qu'il sait 30 personnes. Attendez, j'ai pas fini. Maintenant, ce qui se passe, le roi, il fait le festin. Bon non. Repas.
Mais non, c'est pas la vision, il n'y a pas l'argent, c'est la vision. Tu dois au roi, quoi. Tu te dois au roi après.
Le roi, il fait le festin.
Et après, tu lui dois.
Attendez. Et le roi, après, le festin est terminé. Ok. Donc, il y avait 30 personnes qui ont mangé pour 30 personnes. Donc, il reste des quantités phénoménales de nourriture. Qu'est-ce qu'on fait avec? Attendez. D'abord, on les donne aux serviteurs. Les serviteurs, ils font les restes. Et c'est des bons restes, c'est pas la viande, elle a pas tourné, elle est bonne la viande. Tout est bon.
Pour la famille, les enfants,
les serviteurs, ils prennent. Combien tu vas prendre?
Il en reste encore.
Après, il en reste encore. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste?
aux animaux.
On va donner aux chiens. Maintenant, les chiens, ils mangent. Comment ils vont manger? Et il en reste. Ça pourrit. Qui va venir manger le reste? Les mouches. Après, les mouches, ils mangent. Combien? Vermine, les fourmis. Etc. Maintenant, si tu réfléchis, tu vas dire, ça veut dire que le roi nourrit les fourmis.
Indirectement.
Indirectement.
Bah oui. Parce que si le roi n'avait pas fait le festin,
il aurait pas nourri.
Cette fourmi n'aurait pas mangé cette bonne viande.
Ah oui.
Alors, est-ce que le roi nourrit les fourmis?
Non.
C'est pas le vrai. Hein? Ah oui. Excusez-moi, j'ai oublié.
C'est pas du tout.
Il l'a fait quand même.
Mais concrètement, exactement, Marcel Razak, il l'a fait quand même. Il l'a nourri. Alors, il l'a nourri, il l'a pas nourri.
Ah oui.
Il pense à tout le monde.
Pose la question, oui.
Alors, Michel, il dit que le roi, il pense à tout le monde. C'est-à-dire que d'après vous, le roi, lorsqu'il a préparé son repas,
comme pour le soleil,
il a pris en compte,
comme pour le soleil,
il a pris en compte qu'il a nourri des fourmis. Évidemment, non.
Non.
Le roi n'a jamais pensé nourrir des fourmis. Il n'a jamais pensé une seconde à ça.
Le soleil, pourtant, il
a... Seulement quoi? Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le roi, il a nourri, indirectement, il a nourri les fourmis. Directement, il a nourri qui? Les ministres. Et les invités. Indirectement, il a nourri les fourmis. Donc, et les chiens, et les rats, et vraiment... les cafards, et les... etc. Et les souris, et bon, etc. Okay,
c'est comme nous, quand on a...
Attendez, deux secondes. Maintenant, on va aller au bout du raisonnement. On va essayer d'aller plus loin. De la même façon. Hachem, il te dit, il y a des gens ici dans la terre auxquels je vais donner à manger, mais je n'ai pas cherché à leur donner à manger.
Ah.
Ça veut dire, ils ont mangé, parce qu'il y avait à manger.
Mais c'était pas bon.
Mais j'ai pas fait le repas pour eux.
Mais ils n'étaient pas invités au festin.
Et ça, c'est écrit que notamment chez les non-juifs, Hachem, il y a des gens, celui qui veut être juif parmi les nations et qui veut venir au festin, il vient au festin. Il mérite, il vient. Maintenant, celui qui ne mérite pas, c'est pas grave, il aura les restes. Il sera serviteur, il sera cafard, il sera fourmi, il mangera. Je ne veux pas chercher à comparer, d'accord, mais vous comprenez l'exemple. Par contre, chez les juifs, nous les juifs, Hachem, il nous interdit d'être des fourmis. Il dit, toi, c'est où tu es à la table, ou tu ne manges pas.
C'est d'accord.
Ça veut dire qu'un juif ne peut pas être une fourmi.
Ça veut dire quoi, tu ne manges pas?
Ça veut dire qu'Hachem, il te dit, soit tu fais tchouva et tu reviens à table, d'accord? Soit tu restes sans manger.
T'es pas assez pour faire ça.
Ça veut dire quoi, rester sans manger, alors?
Ça veut dire que tu seras puni. Ça veut dire que tu peux pas faire le cancre et avoir une bonne parnassa.
Enfin, redoubler, quoi. Ah, si, non, je m'excuse, t'arrêtes. Excuse-moi. J'en connais, je peux te dire non, arrête.
Bah, tu connais pas.
Non, mais
tu connais pas, t'es pas en place.
J'en connais,
hein? Ok. Bon, alors pourquoi je vous parle de tout ça? Vous avez l'impression que je donnais plusieurs exemples. Mais en fait, tous les exemples tournent autour de deux notions. Deux notions. Retenez. Sauvève, Serge.
Oui.
Sauvève, même aller. Il y a des choses qui enveloppent, ça veut dire qu'ils sont pas spécifiques, qu'ils sont pas définis. Et il y a des choses qui sont définies. Les fourmis, les cafards, les serviteurs, c'est sauvève, ça. Ils ont profité d'un environnement. Il y avait de la viande, ils ont mangé de la viande, qu'il y avait. On leur a pas donné de la viande. Il y avait de la viande. Sauvève. Ils sont enveloppés. Par contre, les ministres qui étaient autour de la table, la viande a été amenée pour eux. Adaptée pour eux. Réfléchie pour eux. Même aller, sauvève.
D'accord.
Le soleil qui éclaire, il t'enveloppe. Il se pose pas de questions. Je donne à qui? Je donne à quoi? Moi, j'éclaire. Tu viens, tu prends. Tu viens pas, tu prends pas. Maintenant, la terre, elle tourne. Si la terre, elle tourne, eh ben, si t'es devant moi, je t'éclaire. Tu tournes et ben, tu seras pas éclairé. Tu crois que le soleil va dire, attends deux secondes. Ah, la terre, elle a bougé. Attends, moi, je bouge aussi. Non, pas du tout. Le soleil, il dit, je pose pas de questions, moi. Moi, j'envoie ma lumière. T'es devant moi, tu prends. T'es pas devant moi, tant pis pour toi. Je pose pas de questions. J'en ai rien à faire. Moi, je suis un bonhomme qui éclaire. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu prends pas. C'est pas de l'égoïsme, c'est comme ça. Et chez Hachem, il y a aussi une forme d'énergie qui est comme ça. Sauvève. J'envoie, tu prends pas.
Excusez-moi.
Mais il y a une deuxième forme d'énergie, d'accord, qui est pas comme le soleil, qui est une forme d'énergie qu'on appelle, donc, l'enseignement, que l'on dit non, tu t'adaptes à la personne. T'as pas le droit de dire, moi je parle à celui qui veut, il comprend. Ça marche pas comme ça. Faut parler, il faut essayer de faire en sorte qu'il comprenne. Vous voyez, encore une fois, sauvève, mais malé. Mais on va donner encore d'autres exemples.
Le terme mais malé.
Il avait une question de seconde, ouais.
Excusez-moi, avec tout respect, je vous dois sentir mon grand.
Quand j'écoute votre discours,
c'est d'une limpidité et on a l'impression que tout, comme la phrase de tout est bien dans le meilleur des mondes, quoi. Ça veut dire que, à vous écouter, et ça c'est la théorie, c'est-à-dire que je sors dehors,
je vais pas rencontrer le pauvre là, qu'on voit tout le temps à la sortie de la synagogue, qui n'a pas à manger, ou des gens qui sont en face là-bas, qui dorment une fois l'hiver sur leur matelas. Il y a des juifs, il y a plein d'associations de juifs qui n'ont pas à manger. Enfin bref, vous parlez de pays de soleil, il y a des pays où le soleil brûle tellement qu'il n'y a pas une herbe qui pousse et que les gens meurent de faim. Et il y en a d'autres où ils vont être dans une abondance déconcertante. Et ce qui me gêne, c'est que voilà.
Bah, on est en exil.
Et vous parlez de.
Bah, attendez, on est en exil, ma chère, t'es pas là, hein. Ça c'est clair.
Comment ?
Nous sommes en exil. C'est
oui,
clair.
Non, mais d'accord. Mais
Le monde est cruel. Le soleil est un très bon exemple, comme vous faites bien de préciser, qu'il y a des pays dans le monde dans lesquels ils n'en veulent plus du soleil. Ça brûle tout.
C'est vrai.
Il y a des pays dans le monde, ils supplient d'avoir du soleil. Maintenant, vous croyez que le soleil, il se pose une seule fois la question, est-ce que je vais voir là-bas, est-ce que je ne veux pas voir là-bas?
Il brille pour tout.
Il ne se pose pas de question, il est clair, c'est tout. De la même façon, il y a une forme d'énergie dans le monde, une forme de vitalité que Dieu envoie, dans laquelle Dieu ne se pose pas la question, à qui j'envoie, à qui j'envoie pas. Moi, j'envoie l'énergie. Tu veux, tu prends, tu veux pas, tu prends pas. Tu vas être clochard, tu seras clochard.
Mais c'est quand vous parlez, j'ai l'impression que, en fait, finalement, tout le monde a la possibilité. J'ai envie de manger de la viande. Et tout est là, et j'ai plus l'impression que j'ai plus à me servir. Mais en fait, moi, comme je suis un imbécile et je suis une tête de mule, non, il y a tout, mais moi, je veux pas.
Bah, il faut venir à la table.
Non mais, je sais pas. Il y a beaucoup. Tout le monde est là, mais personne ne réagit. Et moi, ça me déconcerte de voir que tout le monde acquiesce, ne dit rien. Et quand vous me parlez j'ai des milliers d'exemples de gens ou de juifs qui vivent à profusion, qui ne sont pas du tout pratiquants, qui sont derrière des pratiquants.
Oui,
Serge l'en connaît. Serge l'en connaît. C'est le travail. C'est une très bonne question.
Une grandeur d'âme et qui rament tous les jours. Et il y a un moment, il faut se poser la question, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que tout est là et qu'il n'y a plus qu'à servir. Or non, tout n'est pas là, que c'est pas si évident que ça, parce que si c'était si évident que ça, comme je vous dis, ce serait un monde où tout le monde...
Est-ce que vous croyez que ce que la Torah dit est vrai ?
Je crois, sauf que à partir de maintenant...
Attendez, la Torah, tout à l'heure, on va dire le schéma, dans quelques minutes.
Il y a un travail
et dans le schéma, laissez-moi arriver au bout du raisonnement. Dans le schéma, on dit comme ça, Hachem dit, si tu te comportes comme il faut, je donnerai la pluie de tes champs en son temps. Si tu ne te comportes pas comme il faut, j'arrêterai la pluie. En d'autres termes, il n'y aura pas de parnassa. Vous avez raison que dans la réalité, dans la vie de tous les gens, ce n'est pas forcément ce qu'on voit de nos yeux.
Ah, Razak, bien sûr.
C'est une bonne question. Seulement, il faut savoir que ça fait partie des phénomènes de l'exil. Il faut le savoir, ça. Les gens ne savent pas ça. Mais à l'époque du Beth Amikdash, les gens voyaient, c'était presque une relation de cause à effet. Celui qui se comportait bien, il avait ce qu'il faut. Celui qui commençait à se comporter mal, tout de suite, il voyait que le ciel lui tombait sur la tête. Il voyait de ses yeux. Mais avec ça, la faute était tellement tentante que, il y allait quand même. Comme des gens qui se droguent aujourd'hui, parce qu'il sait très bien que la drogue, c'est pas bon. Mais il a envie de le faire. D'accord. Aujourd'hui, on est en exil. C'est pour ça que vous avez resté une très bonne question. Mais ce que je veux dire par là, c'est une chose. C'est que, pour un juif, le monde ne peut pas être une jungle. Bâti les gagnis, je suis venu dans mon jardin. Pour un non-juif, le monde peut parfois être une jungle. Une jungle dans laquelle tu attrapes ce que tu peux. Et le meilleur coureur attrapera le mieux. C'est comme ça, c'est une jungle. Comme le soleil. T'es mis dans un coin où il y a plus de soleil, t'auras plus de soleil. C'est tout, c'est comme ça. Mais pour un juif, ça marche pas comme ça. Un juif ne réfléchit pas en mode sauvève. Un juif, il réfléchit en mode mémalé. C'est-à-dire qu'un juif, pour obtenir quelque chose, il doit le mériter. Tu mérites pas, t'es pas à table. T'es pas à table, tu manges pas.
Moi, je ne sais pas la limite entre deux juifs, par exemple, un malheureux qui dort dans la rue et qui n'a pas de quoi bouffer, parce qu'il est juif aussi, et puis...
Ça, vous n'en savez rien pour aller à la rue.
Non, mais d'accord.
Mais attendez.
Quand je le croise, je le vois, le malheureux et tout ça, je ne me pose pas la question. Moi, ce qui me vient, ce qui me frappe, c'est qu'il est malheureux. Point. La question, je ne me pose pas.
Mais vous ne savez pas pourquoi il est malheureux.
Non, mais d'accord,
je comprends. Bon, c'est pas le sujet.
La Torah... Parce que je pense, parce que c'est pas ma croyance, je pense que la Torah c'est vrai,
oui.
Des choses vraies, véridiques, qui sont dans notre ADN. Mais quand je rencontre un pauvre juif,
je sens que ce soit un juif.
Oui, ou une autre. Être humain,
je fais pourquoi, même pas de différenciation. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que il est né pareil, hein.
C'est vrai.
Il est né pareil, hein.
C'est sûr.
Et à un moment donné,
À un moment, il a pété les plombs, à un moment, il a ci.
Là, ou dans ta famille, ou ton origine, où il n'y a pas eu de transmission, où il y a eu un
s'il y en avait qu'un.
C'est un peu pour en général. Ils ont pété les plombs.
Ils ont pété les plombs.
C'est vrai qu'on parlait avec les clochards. Parce que des fois, je vais en parler avec les clochards.
Mais ils sont merveilleux.
Vous savez, c'est très souvent des gens qui avaient une très belle situation.
Il y en avait. Il fallait voir.
C'est sérieux.
Mais ils ont pété les plombs.
Voilà. Ils ont pété les plombs et ils sont incapables de vivre dans une maison. Ils doivent vivre sous un pont.
C'est vraiment pas beau. Il y a beaucoup, quand même, beaucoup de malheurs, de malheureux là-dedans. Hein. Peut-être il y en a un qui a pété les plombs, mais sur 100 personnes, il y en a un ou deux qui a pété les plombs, mais les 98, ils n'ont pas pété. Ils sont dans la misère. Ils sont vraiment dans la misère.
Vous savez, aujourd'hui, vous avez des fois des gens que vous voyez qui dorment dans la rue, là, à côté de... Bon, maintenant, il fait un peu plus chaud, mais vous voyez qui dorment à côté des bouches de métro. Vous voyez, ils dorment là-bas. Et vous les voyez, vous savez que les pompiers, ils viennent les chercher le soir. Les pompiers ou la police.
Ils ne veulent pas venir.
Ils ne veulent pas venir.
Ah, oui.
Attendez deux secondes.
Attendez, moi je vous dis.
Il y a des centres pour ça.
Oui, mais justement. Ils ne veulent pas aller dans les centres parce que dans les centres, ils se font voler. Ils se font taper.
Ils se font voler quoi ?
Leurs affaires.
Ils se font agresser.
Bon, allez.
Du
tout.
Non, parce que là, c'est vrai, il n'y a pas toujours de relation cause à effet entre mes actions et ce que...
Ah oui, c'est sûr.
Mais ce que je dis, c'est qu'un juif, il doit savoir, il doit avoir la Emouna. C'est vrai qu'on est en exil et qu'en exil, on a plus de mal à voir la relation de cause à effet avec ce qu'on fait et ce qu'on obtient. Mais un juif, il doit savoir en général que de lui, Hachem, il attend plus que les autres.
Exactement.
D'un juif, Hachem, il attend plus que les autres. D'un autre, Hachem, il dit, écoute, bon, j'attends le toit, quand tu viens dans un endroit, il y a du soleil. T'as capté
plus, quoi,
t'as...
Plus quoi?
Plus, ça veut dire que tu dois mériter d'être à la table du roi. Rien de moins.
Il attend plus de lui. Donc, mise-vote alors.
Oui. Vous savez, quand il y a un film qui tourne, dans un film, d'abord, tu as des figurants.
Ouais.
Figurants. Des fois, t'as une scène, t'as combien de figurants dans la scène? Des fois, t'as 500 figurants.
Ah oui, bien sûr.
Figurants qui sont floutés légèrement, t'es figurants. D'accord?
Dans le... Voilà.
T'as des acteurs secondaires. Et t'as des acteurs principaux.
Ça parle à mon
chien. Maintenant, dans un film, combien y a de figurants? Un bon film.
Un peu plum, il y a des soldats, tu vois qu'une tête.
Hein? Ouais, c'est vrai.
Combien de figurants?
Voilà. D'accord? Hein? Des milliers?
Maintenant, il y a des machines. Maintenant,
d'accord. Bon, oublions les machines. Un film de l'époque. Combien de figurants?
10 000.
Combien d'acteurs secondaires?
Un peu moins. Une centaine.
C'est des gens que tu revois sa tête. Tu revois plusieurs fois sa tête dans le film.
Une cinquantaine, on va dire.
Tu comprends? Elle a caissière, le truc. Tu le revois plusieurs fois. Un acteur secondaire. Attends, deux secondes. Maintenant, combien d'acteurs principaux tu as?
Deux, trois.
Deux, trois.
Ouais.
Combien il y en a?
Une dizaine.
On est d'accord? Bon, à la même façon. Hachem, il te dit, toi, t'es un acteur principal. Et je te laisse mettre, figurant. Les autres, il leur dit, écoute, tu vas être acteur principal, tu es devant de la scène. Tu vas être secondaire, t'es secondaire. Tu vas être figurant, tu seras figurant. Tu vas être fourmi, tu seras fourmi, pas de problème. Prends ce que tu sauras, ce que tu veux. Hachem, quand il parle, il dit, non. Toi, je te juge chaque jour, trois fois par jour, une fois par an, ça, c'est le big jugement. Et toi?
Tête d'affiche
ou rien.
C'est clair, si tu commences figurant, tu ne seras jamais un gros artiste. Par contre, si tu fais des cours Florent.
C'est horrible de réfléchir comme ça.
C'est
très dur.
Il y a plus de gens.
Parce qu'à un moment, l'acteur, imagine, parce que vous savez ce qu'on prend l'acteur principal. Et ça explique beaucoup de choses, ça. Les juifs en ont marre d'être à la tête d'affiche. Vous savez, quand un juif fait une bêtise, alors que les goyim entre eux, ils vous parlent, ils vous disent, ah, t'as vu, il y a un juif qui a fait ça. Ouais. Il prend celui qui a un juif qui a fait ça. Il dit, monsieur Intel, il a fait ça. Laisse-moi tranquille. J'ai envie d'être figurant maintenant. Laisse-moi tranquille. Pourquoi vous êtes obligé de me piller? Chaque chose que je fais, il y a un paparazzi qui est autour de moi qui est en train de filmer ce que je fais. Et qui est en train d'anticiper ce que je vais faire. Arrêtez de m'anticiper, laissez-moi tranquille. Laissez-moi fouetter comme un bon français. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que tu veux que tu le pètes, t'es un acteur principal. T'es un acteur principal et t'as des paparazzi tout le temps sur toi. D'abord, t'as Hachem qui est sur toi. T'as les anges qui sont sur toi. C'est-à-dire, chaque chose que tu fais, là, tu bouges la main et tu dis, ah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il va la faire la vira ou il va pas la faire? Et t'es là, je dis, ah! Laissez-moi, je vais être un figurant! Tu sais, un figurant qui fait une grimace. C'est pas grave, on le floute! Non, on le voit pas! C'est rien du tout, c'est rien du tout. Mais un acteur principal qui fait une grimace, ah, coupez! On recommence! Mais arrêtez, je veux voir un acteur principal! Tu peux pas! Toi, t'es à la table, toi. Toi, t'es à table. Toi, tu joues. C'est compliqué. C'est-à-dire, tout tourne pour toi. Et on retrouve encore une fois, vous voyez, la même dynamique. Sauvève, mais malais. Il y a des choses qui sont un environnement. Et quand c'est un environnement, on fait pas trop attention aux détails. Qui prend, qui prend pas. C'est un environnement. C'est comme les figurants. C'est là, c'est un environnement. Le soleil, il est clair. Bon, il est clair là, il est clair là. Il faut pas trop de questions. Mais après, t'as mémalé. Mémalé, c'est les choses qui sont définies, spécifiées, ciblées. Et ça, c'est ce qu'Hachem attend pour nous. Alors, on va avancer un petit peu. Encore une fois, n'oublions pas le titre du cours. C'est que, on essaye d'expliquer comment de l'infini, on arrive au fini. Voilà. Donc, en fait, les étapes sont comme ça. Au début, t'as l'infini. Après, deuxième étape, c'est, t'as une énergie qui est là, qui enveloppe. Après, troisième étape, une énergie qui est adaptée à la personne, même aller. Donc, Ensof, l'infini, Sovev, ce qui enveloppe, même aller, ça s'adapte à toi. Ok? On continue. Alors.
350, non.
On va tourner la page, je vous explique alors.
350.
350, en bas de la page, vers Hamashal Basé. C'est bon? Vers Hamashal Basé. L'exemple qu'on pourrait donner sur ça. D'accord? Alors, c'est pas un exemple d'autre chose, c'est un exemple, vous allez voir dans l'exemple même. Ouais. Iné, hein, qu'est-ce que
c'est? J'ai la clim, il fait froid.
Bah, mâche, elle basé, hein?
Il fait trop froid.
C'est pour vous réveiller, alors.
C'est l'énergie qui nous enveloppe.
Voilà.
C'est l'énergie qui tombe, Razak.
C'est la fraîcheur qui vous enveloppe.
La fraîcheur du soir. Ouais.
Il y en a un qui suit.
Hein?
Il y en a un qui suit.
Bah, mâche, en tout cas, c'est à réveiller.
Dit qu'il n'y a plus de soleil, hein? C'est bon. Il n'y a plus de soleil, il y a plus de soleil.
La mâche albazé, vous avez dans les mots, page 350. Pour illustrer cette idée, Iné a aretz alazo agashmitz. Prenons comme exemple cette terre matérielle dans laquelle nous vivons, la planète Terre. Et quand je dis la planète Terre, c'est pas que la planète Terre en fait, c'est l'espace. Quand on dit, il faut savoir quand on dit la Terre en général, c'est la Terre, l'espace. Ok? Af shemelo kol aretz kevodo. Nous savons pertinemment que le monde entier est plein de la gloire d'Hachem. On le sait. On le sait. Et pourtant, c'est votre question, ça. Vous sortez dehors dans la rue, vous allez voir Dieu?
Non.
Alors comment c'est possible? Qu'est-ce qui tourne pas rond ici? Tu me dis que je sors, tu me dis que le kavod d'Hachem, il est partout dans le monde. Je le vois pas. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent, d'accord, qui naissent, qui vivent et qui meurent sans penser une seule fois à Dieu. Vous avez au fin fond de la France des gens, des paysans qui sont là-bas. Il est né là-bas, il a vécu là-bas, il est mort là-bas, il est enterré là-bas. Ça tombe ici, gis, d'accord, une personne, il a fait 120 ans, il a fait 120 ans. Il n'a pas pensé une fois à lui.
Possible.
Hein? Bien sûr, c'est possible.
Oui.
Bien sûr, c'est possible. Hein? Il n'a jamais pensé une seule fois à Dieu. Pourquoi? Je dis pourquoi? Parce qu'on est dans un monde dans lequel tu n'es pas obligé de penser à Dieu. Celui qui veut ne pas penser à Dieu, il peut ne pas penser à Dieu. C'est un effort de penser à Dieu. C'est un effort d'essayer de comprendre que derrière tout ça, il y a Hachem. Bien sûr que nous, on a des outils pour essayer de trouver ça. Mais il y a des gens qui ne pensent pas à ça. Il y a même des gens qui disent, je ne crois pas en Dieu.
Le fait de dire, je ne crois pas en Dieu.
Oui, c'est une forme de, bon, bien sûr. Alors, mais il y a des gens, c'est même pas que je ne crois pas en Dieu. Ils disent, de quoi tu parles? Ils ne savent pas de quoi tu lui parles. Ils disent, moi, je connais ma vache, je connais ma femme, je connais mes enfants, je connais ma voiture, je connais ma maison, je connais mon tracteur, je connais mon champ, et c'est tout. C'est tout. Et je connais la grève. Ah, je connais.
Ah, oui. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous croyez en Dieu d'abord, vous, par exemple? Rien? Parce qu'on vous a inculqué ça depuis que vous êtes petit? Mais si vous, voilà.
Alors pourquoi? Alors, je vais vous dire pourquoi. Comment ça se fait que, concrètement, donc c'est problématique. Comment ça se fait qu'on sait, on te dit que Dieu est partout dans cette terre, et pourtant on le voit pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple. Au début, il y avait une lumière infinie. Cette lumière infinie, après, elle enveloppe le monde. Et après, elle l'intègre, mais c'est avec des quantités, j'ai pas envie de dire, presque homéopathiques. Ça veut dire, c'est infini. C'est une toute petite quantité. C'est infime, pardon. Infime, tout petit. Et l'énergie qu'il y a dans ce monde est tellement infime au point que celui qui veut ne pas voir Dieu, il ne le voit pas. Voilà. Donc là, vous avez l'histoire de notre monde. Ça, ce que je vais vous expliquer, c'est l'histoire de notre monde. Pour t'expliquer comment Dieu, c'est un miracle que Dieu a fait pour prendre de l'infini et le transformer en infini. Et pourquoi Dieu a fait ça? Si Dieu n'avait pas fait ça, jamais on aurait eu le libre arbitre. Imaginez que je vois la bouteille de coca, je vois Dieu. Je vois la Vera. Exactement. Ça veut dire, je ne peux pas ne pas y croire. Je ne peux pas ne pas y croire. Et je ne peux pas ne pas me sentir menacé par ça. Obligé. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il te crée un monde dans lequel il est là, mais l'énergie est tellement infime, au point que tu ne la vois pas. Et que celui qui veut croire qu'il n'est pas là, il faut croire qu'il n'est pas là.
Il faut aller chercher.
Il faut chercher. Là, on a un exemple, vous voyez, donc l'infini, après ça enveloppe, et après ça rentre. Mais quand tu veux qu'une énergie, comment tu veux qu'une énergie infinie intègre un bouchon? Comment tu fais? C'est pas possible. Un microbe, c'est pas possible. C'est-à-dire que Dieu se réduit, se contracte, se contracte, se contracte, se contracte, au point qu'à la fin, il y a une toute petite quantité d'énergie. C'est ce qui reste à la fin.
Ça passe.
D'accord? Et ça, l'homme doit réfléchir à ça. Pourquoi il nous parle de ça ici? C'est pas pour ça, pour nous faire voler. C'est pour te faire réfléchir, pour te dire. Toi, t'es toujours en train de dire, ouais, moi, t'as vu, je suis sympa avec Dieu, il m'a demandé, et moi, j'ai fait, tu vois, je suis un type bien, tu vois. On dit, mais réfléchis qui tu es par rapport à Dieu. Toi, avec ton corps et ton âme, etc. Essaye de te faire un ratio par rapport à Dieu. Et comprends que tu peux même pas te comparer à lui. Et que même l'énergie que tu as en toi, c'est parce qu'il a bien été gentil de vouloir intégrer l'énergie en toi, mais en vérité, c'est une énergie infime, d'infime, 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 d'infime. D'abord, c'est quelque chose de fini, et quelque chose d'extrêmement tout petit. Si tu devais comparer ça maintenant par rapport à l'infini d'Hachem, Enaror, on ne peut même pas comparer. Donc quand tu vois ça tout de suite, tu remets en proportion, et tu comprends que Hachem est très grand. Et c'est le but. Vous savez, dans ce chapitre, on parle beaucoup de réflexion. Les vacances approchent. Quand vous allez en... même les vacances, pas que les vacances, il y a des mois de vacances qui arrivent. Là, des mois dans lesquels il y a des ponts et des ponts de ponts et des etc. Bon, ok. Alors regardez, quand vous êtes par exemple, en vacances, vous êtes à la montagne, vous êtes à la mer. Tu vois l'immensité comme ça, l'immensité de la mer, l'immensité des montagnes, l'immensité. C'est énorme. Tu montes en haut d'une montagne, tu vois la mer, l'immensité. À quoi tu penses quand tu vois tout ça?
La grandeur.
Alors, il y a des gens, tu vois, à quoi ils pensent? Ils ont leur bateau. Il est sur son bateau. Et ils montent, ah, t'as vu, il est monté à 20 nœuds. Ah, il monte à 20 nœuds. Il a rien vu, il a pas vu la mer autour de lui. C'est-à-dire, la mer, c'est un ennemi, tu vois. Il dit, mais je comprends pas, papa. T'es concentré sur ton bateau, t'as une mer autour de toi. T'as un monde autour de toi. Le gars, il a rien vu. Il a vu que, il est omnibulé par son moteur et son bateau et son yacht. Mais Hachem, il dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il prend du recul. Regarde comment Hachem est énorme. Et plus tu comprends comment Hachem est énorme, et pas seulement matériellement, la mer est grande, le monde est grand, etc. Juste, ici, vous imaginez juste comment l'espace est grand. Juste prenez dans votre tête maintenant, fermez les yeux, et si vous imaginez l'espace, elle est quittée, la Terre. Après la Terre, qu'est-ce qu'on voit? Tu montes, et 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 tu montes. Et tu vois, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Il n'y a pas d'objectif qui capte tout ça. Et quand tu vois tout ça, tu dis, mais attends, mais moi, qu'est-ce que je suis par rapport à tout ça?
Un micro.
Et avec ça, on est encore dans la Terre. Quand je dis la Terre, ça veut dire c'est l'univers. On est encore dans l'univers. On n'est même pas dans le monde spirituel. Juste déjà par rapport à la matérialité, regardez comment quand tu prends du recul, comment tu te sens infime, tout petit.
Homer.
Tout petit, infime, petit. Alors maintenant, si tu devais te comparer maintenant par rapport à Dieu, quand tu réfléchis, tu dis mais je suis rien par rapport à Hachem. Il est gentil qui me demande de faire des choses. Il n'a pas besoin de moi. Il a un monde tellement grand. Ça, c'est que le matériel. Mais tu crois qu'il a besoin de moi? Je suis quoi, moi? Je suis quoi ici? Quand tu réfléchis à ça, tu peux pas ne pas avoir la chair de poule. Alors, c'est pour ça, vous savez, on dit chez les racines, quand ils étaient comme ça, en manque d'inspiration, il y en a qui sont en manque d'inspiration, ils vont prendre un jour, etc., des bêtises. Mais racines, qu'est-ce qu'il fait un racine lorsqu'il a un manque d'inspiration? Il sort dehors dans la rue, d'accord? Ras de Shalom. Il sort dehors dans la rue. Non, mais c'est vrai. Je vais t'expliquer le problème du joint. Le problème du joint, c'est que ceux qui prennent un joint, ils sont imbibés de leur personne, encore plus. C'est pas ça ce qui fait un chassid, Chamishmor. Qu'est-ce qui fait un chassid? Un chassid qui fait, quand il voit qu'il en manque d'inspiration, il va aller dehors dans la rue. Il va voir l'immensité. Et quand tu vois des forêts, des montagnes, des océans, tu vois comment c'est énorme. Tu vois comment t'es tout petit, t'es un microbe par rapport à ça. Et là, tu te rends compte qu'Hachem est grand. Et tout de suite, tu te remets en proportion. Ça, c'est que par rapport à la matérialité. Vous voyez? C'est-à-dire là, la Morazaka veut te montrer qu'on est parti de l'infini. Après, on fait un environnement qui t'enveloppe. Et après, il y a l'énergie qui est en toi. Et quand tu te compares de ça par rapport à l'infini, automatiquement, tu comprends que tu es infime par rapport à Hachem. Tu es tout petit. Et ça t'aide à combattre ton Yitzhara, ça. Parce que si ton Yitzhara, tu comprends, il arrête de dire, ouais, t'es un type, t'es grand. Bon, Dieu, il est très grand, mais toi, t'es grand aussi. Tu veux pas te battre avec ton Yitzhara. Mais quand tu fais comprendre à ton Yitzhara que t'es une zut et que t'as rien du tout par rapport à Hachem, tout de suite, ça le calme. Tout de suite, c'est quelque chose qui le calme. C'est-à-dire que le simple fait de réfléchir à ça, je dis, attends, regarde comment Hachem, il est gentil avec toi. T'es rien du tout. Il te donne une chance. Il te dit, tu vas faire ma volonté. Tu as une possibilité de faire sa volonté, de construire ta vie, de faire les choses comme il faut. Il t'offre pour un plaisir de quelques instants, t'as rien de tout faire sauter. T'es marre ou quoi? T'es bête ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé par la tête?
Sauf qu'on reste ce micro-microbe jusqu'à la fin de nos jours.
Oui, mais la différence, M. Benita, c'est que Dieu, il te dit, il vient voir le micro-microbe, rappelez-vous le chapitre 47. Il vient voir le micro-microbe et il dit, j'ai besoin de toi. Rappelez-vous l'Égypte, le clochard. Rappelez le clochard. Ça, en fait, le chat. C'est que Dieu, il est infini, et il vient chercher un microbe, et il lui dit, j'ai besoin de toi pour sauver le monde. Pour sauver la planète. Pour sauver l'univers. Pour sauver tout. Pour sauver le Gan Eden. Je suis un microbe, moi. Je suis une zut. Je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Je vois rien. J'ai besoin de toi. Et toi, que suis-tu? Tu dis, non, Hachem. Attends, attends. J'ai une petite avéra sympa qui m'attend, là. Je te retrouve dans 5 minutes.
T'es remarque ou quoi?
T'es remarque ou quoi?
On voit personne. Hein? Tu vois que la Terre.
Oui.
Du ciel.
Bien sûr. C'est un film.
C'est pas loin. Hein.
C'est un film.
Oui, exactement.
Oui. Donc ça, c'est juste, je termine. Ça, c'est juste une idée. Une idée. Pour nous permettre de comprendre. Pour nous permettre de comprendre et pour nous permettre de prendre du recul par rapport à tout ça. Alors, juste deux secondes. Ce qu'on fera la semaine prochaine, parce que c'est déjà l'heure. Après les questions avec plaisir. Ce qu'on fera la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Non, mais c'est sûr, ça soulève plusieurs des questions et des réflexions. D'accord? Ce qu'on va faire la semaine prochaine, Bezrat Hachem, on va continuer dans le même thème. On va parler de la pensée de Dieu. On va comparer la pensée, oui. Attends deux secondes. On va essayer de comparer la pensée de Dieu par rapport à notre pensée. Et vous allez voir que plus on va avancer dans ce chapitre, qui est un chapitre très profond, c'est un chapitre qui fait beaucoup beaucoup réfléchir. Plus tu avances, et plus tu comprends que finalement, t'es infime devant Hachem, t'es rien du tout, t'es tout petit. Et si tu arrives, pas seulement à savoir ça, on le sait déjà, mais si t'arrives à le comprendre, automatiquement, t'arrives à combattre ton Yetzer Hara beaucoup mieux. Voilà. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. À méditer. Alors, messieurs, des questions ou des réflexions? Alors, vas-y. Des remarques,
Une réflexion pour amener de l'eau à votre moulin.
T'as du boulot,
La notion d'importance, même le microbe est important, parce que vous parliez de,
pour vous,
oui.
De contenu et de contenant. Finalement, l'homme est un contenu.
Ah oui, bien sûr.
C'est un contenant. Mais cette énergie, elle a besoin d'avoir un réceptacle. On est,
oui.
on est un réceptacle pour le moment. Mais quand même, Dieu a vraiment besoin de nous.
Vous croyez vraiment que Dieu a besoin de vous?
Oui. En théorie, non, mais le fait de l'avoir créé, il a besoin qu'il a créé un jeu.
Ah ouais, c'est
l'homme, il a créé un jeu. C'est comme la création, non, enfin, et on fait partie du jeu de la création.
Je m'excuse de l'exemple, hein. Mais imaginez que le roi, on va prendre l'exemple. Avec ça, l'exemple, il n'est même pas juste parce que c'est encore plus fort que ça. Imaginez que le roi, il veut organiser un festin. Il va inviter des fourmis à sa table. Il va aller chercher des fourmis et dire, j'ai besoin de toi, viens, viens à ma table. Je vais te faire une grande seouda.
Mais non, si mais le roi il a décidé d'inviter la fourmi, c'est que la fourmi pour lui a la même importance.
Non, c'est qu'en vérité, il a décidé d'être gentil avec la fourmi. La fourmi dit, mais quoi, moi, t'as besoin de moi? Moi, je mange les restes.
Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous prenez l'exemple d'une pile, si on prend l'exemple d'une pile où il y a une énergie, il y a une énergie électrique qui est dans l'air, dans l'atmosphère, s'il n'y a pas cette pile, par exemple, sur une batterie, une pile ou autre chose, s'il n'y a pas un enveloppant, pour canaliser cette énergie,
elle vague.
Évidemment.
Elle n'existe même pas. On ne peut pas parler de notion d'énergie. Puisque...
Oui, mais le but de ce chapitre, c'est que l'homme comprenne qu'il est tout petit par rapport à Hachem. Vous allez voir que plus on avance et plus on commence à comprendre cette idée. Oui, non, mais deux secondes.
Pas pour Pharaon.
Mais ça, je t'ai expliqué. C'est une très bonne question que tu poses.
Non, mais c'est répondu.
Non, non, il a raison. C'est une évidence. On le sait. On a grandi comme ça. On le sait. Oui, mais Michael.
Il est fier à lui-même.
Michael, je t'explique la différence. C'est qu'il y a des choses qu'on sait. On le sait. On a grandi comme ça. Mais on n'a pas forcément des outils. Intellectuel pour le comprendre. C'est le but de la chassidoute, de te donner des outils pour t'expliquer ça. C'est quand tu le comprends intellectuellement, tu as beaucoup plus de poids face à l'État.
T'as vu ou pas la nouvelle vague? La nouvelle vague.
Il y a déjà répondu, mais en fait, tu as déjà répondu parce que c'est écrit comme ça. Mais pourquoi tout ça? On a compris que c'était sa volonté, on avait compris que c'était son envie. Comme une envie, ça se discute pas, comme une volonté, ça se discute pas. Mais pourquoi tout ça? C'est incompréhensible. Une entité.
Écoute, si on comprenait le créateur, on serait le créateur nous-mêmes.
Ouais. Mais non, ça ne veut pas dire ça.
C'est comme l'employé. L'employé qui est dans la tête du patron. Il devient le patron.
Mais non, mais l'employé, il faut comprendre la tête du patron si le patron lui montre ses livres.
Voilà.
Mais nous, la question, c'est si lui nous montre ses livres, c'est pas sûr qu'on comprenne. Mais si, comme il a fait, il a créé des règles du jeu pour la vie ici, avec des notions qui peuvent être transposables dans notre langage, peut-être son envie, même si une envie, elle est, c'est une envie, j'ai envie de ton, je peux pas te dire que j'ai envie de ton, mais tu peux comprendre que c'est une envie.
Mais le problème qu'on a, c'est, je comprends ta question, le problème qu'on a, c'est que nous, les hommes, les êtres humains, on fait l'amalgame entre envie et besoin. Si j'ai envie de quelque chose, donc ça veut dire que j'en ai besoin. Puisque
c'est un plaisir.
Non, donc ça veut dire que c'est un besoin. C'est-à-dire que cet objet peut me procurer un plaisir, que sans cet objet, je n'ai pas le plaisir. Sauf que chez HM, il y a une envie, il y a un plaisir, et peut-être même une envie. Mais c'est pas la même chose. C'est pas un besoin.
Si on parlait du plastique et de la pomme de terre, c'est deux choses différentes.
Mais c'est important de comprendre d'où on vient. Chaque seconde, on est généré de l'infini. C'est une lumière infinie qui s'adapte, qui rentre dans l'infini.
C'est parce que tu as dit que tu as rien compris.
On n'a pas dit comment on récupère la lumière.
Elle est là, elle a raison. Elle est là, elle descend.
Comment on la récupère?
Elle est.
Mira, arbitre.
Arbitre, bien sûr.
C'est pas la lumière. C'est vite.
C'est.
Les points.
C'est dans toi.
Oui,
mais Malé.
C'est grave, c'est grave. Le capitaine, la situation est grave.
Ah, Mika, alors.
Dans l'espace, t'es où?
Espace-temps.
Mika, tout en bas.
Bon, bah écoute, hein.
Travaille.
Je vais récupérer la lumière.
Bon, allez, arbitre.
Allez.
Mais d'un autre côté, il vaut mieux pas se considérer comme un rachat. Parce qu'on peut pas remonter après.
C'est vrai? Pas sûr, hein.
Je suis désolé, ma chère. Je crois qu'il va la voir là.